sur France Inter, il est 19h. Frédéric Barrère pour le journal. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. La présidentielle américaine, scrutin serré, les deux candidats se déchirent dans un bras de fer autour du dépouillement. Donald Trump annonce l'apparition du bulletin de vote surprise. L'équipe de campagne de Joe Biden explique que le candidat démocrate est en train de l'emporter. L'équipe de campagne de Donald Trump demande un nouveau décompte dans le Wisconsin, où Joe Biden arrive en tête avec 49,4% des voix, contre 48,8% à Donald Trump. Ce soir, le scénario redouté est en train de se profiler avec une contestation en justice des résultats. Nous serons dans un instant avec Franck Madvan à Washington. Nous irons en Pennsylvanie et nous rejoindrons Valentin Dunat au Texas. À 19h20, notre journée spéciale élection américaine se poursuit avec le téléphone sonne, Fabienne Saint-Hès.
On pourrait demander à tous nos spécialistes où nous allons dans ce jour sans fin et après quelle élection américaine. Vos questions sur le processus, sur l'État, avec Anne Desine qui est restée avec nous, avec Laurence Nardon qui seront là aussi et avec Grégory Phillips depuis Washington.
Tout à l'heure, Fabienne, dans ce journal également, le gouvernement qui siffle la fin de la contestation et du cafouillage autour du confinement et de l'état d'urgence sanitaire, les décisions du gouvernement qui ne sont pas toujours bien comprises après les lycées hier qui bloquaient leur établissement, mouvement de grogne au CP et dans les écoles primaires aujourd'hui contre le port du masque à 6 ans. Enfin, nous parlerons de la rentrée littéraire bien mince en ce moment en raison du confinement.
France Inter.
L'Amérique attend son président suspendu au résultat d'une poignée d'États clés. Le dépouillement des bulletins de vote pourrait durer des jours. Pas du tout, selon l'équipe de campagne du candidat démocrate. Joe Biden est en passe de l'emporter. Il devrait avoir plus de 270 délégués dans la journée. Le suspense demeure, les deux candidats se déchirent et ce soir, l'équipe de campagne de Donald Trump veut recompter les votes dans le Wisconsin où Joe Biden arrive en tête avec un point d'avance sur Donald Trump. Ce matin, Donald Trump avait annoncé sa victoire et cet après-midi, le président américain a cherché à semer le doute sur les opérations de dépouillement en dénonçant sur Twitter l'apparition de bulletins surprise. Le dépouillement se poursuit dans un scrutin très serré, mais dans deux États extrêmement importants pour remporter l'élection. On en a parlé, le Michigan, mais le Wisconsin. Joe Biden fait désormais la course en tête dans le Michigan. Il aurait gagné dans le Wisconsin, mais il faudra sans doute recompter tous les bulletins de vote dans cet état du Wisconsin. En direct de Washington, on retrouve Franck Madvan. Bonjour Franck, il est 13h chez vous sur la côte Est, 19h à Paris.
Oui, bonjour, bonsoir Frédéric.
La photo du scrutin était très floue ce matin. Est-ce qu'elle est en train de gagner en clarté ce soir, Franck?
Alors, on va rester prudent, hein, Frédéric, mais Joe Biden, c'est certain, est en bien meilleure position ce soir que ce matin. Il est assuré de 227 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche. L'Arizona devrait lui en donner 11. La victoire dans ce bastion républicain lui est quasi acquise. Le candidat démocrate est aussi en avance désormais dans deux États des Grands Lacs. Vous les avez cités, Wisconsin et Michigan, que Trump avait reconquis en 2016. Les derniers bulletins dépouillés, surtout des votes par correspondance, sont plus favorables aux démocrates. Avec ces trois États, nous voilà à 264 grands électeurs pour Joe Biden. Il est en tête également dans le Nevada, Biden, 6 grands électeurs. S'il remporte cet État de l'Ouest, où la bataille est encore indécise, il deviendra président. Et Joe Biden a aussi un espoir en Géorgie et en Pennsylvanie, où le dépouillement est toujours en cours. Voilà pour l'arithmétique du soir.
Alors Franck Madvan, est-ce que le scénario le plus redouté aux États-Unis est en train de se profiler avec une contestation en justice, notamment des résultats ?
Ben en tout cas, c'est la carte que semble jouer désormais Donald Trump. Il a tweeté aujourd'hui, hier, je menais souvent largement, puis des bulletins surprises sont apparus, très étranges en lettres capitales sur Twitter. D'après son équipe de campagne, si les bulletins légaux sont dépouillés, le président sera réélu. Elle veut demander, cette équipe de campagne, vous l'avez dit, un nouveau décompte des voix dans le Wisconsin. Le camp Trump jette en fait le doute sur les votes par courrier, sur les derniers bulletins dépouillés, comme s'ils n'avaient pas de valeur. Pourquoi ? Parce que ces votes, on l'a dit, sont plutôt favorables aux démocrates. On le savait, hein, c'était un scénario envisagé par les analystes. Trump en avance le jour J, puis Biden qui grignote peu à peu son retard. C'est pourquoi Donald Trump a répété ces derniers jours que l'élection devait se conclure le 3 novembre. Le président veut contester la validité de certains bulletins. Il envisage, il l'a dit, un recours devant la Cour suprême, mais on ne peut pas saisir directement la Cour suprême aux États-Unis. En premier lieu, si une bataille juridique s'engage, elle commencera au niveau des États et les avocats de Joe Biden se disent confiants.
Franck Madvon, en direct de Washington, tout près de la Maison Blanche, merci.
Et direction maintenant, Frédéric, le Delaware.
Oui, on va écouter Dolores, une supportrice démocrate de Wilmington, dans le Delaware. Elle a passé la soirée à suivre les résultats, écouter Joe Biden et venir remonter le moral des troupes en leur promettant que rien n'était fini. C'était durant la soirée électorale. On écoute Dolores.
J'espérais une vague bleue, pas nécessairement un raz-de-marée. J'aurais adoré qu'il y ait un raz-de-marée, mais je n'y croyais pas forcément à cause de la virulence des supporters de Trump et de sa campagne jusque dans les petites villes. Quand les résultats ont commencé à tomber, on est tous devenus tristes et même notre langage corporel a changé. Nous comprenons ce qui est en train de se passer. Chacun de nous ressent de la souffrance, ça se voit dans nos yeux. Je ne suis pas religieuse, mais je prie.
Dolores au micro de Claude Guibal. Au Texas maintenant, les démocrates espéraient une vague bleue dans ce bastion conservateur. Finalement, Donald Trump conserve le Texas. En direct d'Austin, Texas, on retrouve Valentin Dunat. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Alors les partisans du président américain savourent, j'imagine, leur victoire dans cet État.
Oui, ils savourent leur victoire au Texas alors que certains prédisaient une victoire démocrate. Mais surtout, depuis hier soir, là il est midi au Texas, à Austin, ils estiment que c'est plié, que Trump a gagné. Et le discours du président déclarant sa victoire dans la nuit n'a fait que les convaincre, eux qui me parlent beaucoup de Dieu qui aide l'Amérique et Trump, et qui me parlent aussi de cette technique bien vue ici au Texas, technique du cow-boy qui consiste à dégainer le premier, ce qu'a fait Trump hier soir. Mais quand je leur dis que ça n'est pas fait, que les résultats ne sont pas connus, que Biden peut même l'emporter, là, ils me demandent pour qui je travaille, je dis la radio publique française, et ils me répondent, désolé pour l'anglicisme, hein, mais Donald Trump ne cesse de répéter ce mot, fake news, mauvaise information, sous-entendu des médias de masse ou du service public, comme la radio texane ici, le France Inter texan, qui, selon eux, veut voler la victoire à Donald Trump.
Valentin Dunat, en direct d'Austin, Texas, merci. Aucune autre élection que la présidentielle américaine n'a autant d'impact sur le monde. L'Europe attend le résultat définitif, bien sûr, du scrutin, mais l'Allemagne s'est dit très inquiète d'une situation très explosive. Bonsoir Marie-Pierre Vérot.
Bonsoir Frédéric.
Et l'Allemagne demande de faire confiance au processus électoral américain.
Oui, l'Allemagne qui préside en ce moment aux destinées de l'Union européenne et se fait la porte-parole de ses pairs, ou du moins d'une bonne part d'entre eux. Alors que Donald Trump, on le disait, s'est déclaré vainqueur avant même la fin du dépouillement, trois ministres, pas moins, sont montés au créneau. Le chef de la diplomatie allemande qui appelle à respecter le processus électoral et les résultats, après le ministre des Finances ce matin, quand la ministre de la Défense, elle s'inquiète d'une situation, vous le disiez, très explosive, mettant en garde contre une crise constitutionnelle qui, a-t-elle dit, devrait tous nous préoccuper. Car en effet, au-delà d'une éventuelle victoire du président Trump, ennemi en chef de l'Union en général et de l'Allemagne, d'Angela Merkel en particulier, eh bien c'est le risque mortel qui pèse sur le processus démocratique américain que pointe Berlin et le signal qui serait envoyé par la première puissance à ses admirateurs populistes en Hongrie, en Pologne ou même en Slovénie, dont le Premier ministre a déjà félicité Trump pour sa réélection. C'est cela que redoute l'Allemagne. Si la démocratie peut ainsi être bafouée aux États-Unis, comment la défendre sur le vieux continent et au-delà? Un questionnement, Frédéric, qui relève presque au rang d'anecdote les inquiétudes qui prévalaient jusqu'à présent en cas de victoire de Donald Trump, que ce soit sur le climat, le nucléaire ou encore le commerce transatlantique.
Marie-Pierre Vérot du service international de France Inter, merci.
À Vienne, en Autriche, après l'attaque qui a fait 4 morts lundi soir dans des bars fréquentés du centre-ville, l'hypothèse du tireur isolé a été confirmée par les enregistrements vidéo.
Oui, l'enquête se poursuit. 16 personnes ont été arrêtées, dont 2 suspects en Suisse, des amis du tueur. Le ministre autrichien de l'Intérieur qui a reconnu hier des ratés dans la surveillance du terroriste, pourtant connu des services de renseignement, accuse ce soir son prédécesseur de l'extrême droite d'avoir causé des dommages durables au renseignement intérieur autrichien. À Vienne, 2 jours après l'attaque terroriste, la communauté musulmane craint les amalgames. Reportage d'Isorias à Vienne.
700 000 musulmans vivent en Autriche et dans les rues de Vienne, certains sont inquiets, à l'image de Wissam, un étudiant tunisien.
Je suis ici depuis 2 ans et demi et je trouve les Autrichiens très accueillants, mais je sais qu'après un attaque comme ça, que ce soit en France, en Allemagne ou dans n'importe quel autre pays, la xénophobie et l'islamophobie augmentent et c'est, je crois, ce que craignent la plupart des étrangers et des musulmans ici.
Turan, un jeune musulman d'origine turque, avoue se sentir stigmatisé depuis l'attentat. Heureusement, dit-il, qu'il y a eu durant cette attaque quelques actes héroïques.
Je suis content que 2 musulmans turcs aient sauvé un policier et une femme, car ça donne une bonne image et ça permet peut-être de faire un peu disparaître les préjugés. Mais quand on regarde tout ce qui a été écrit sur les réseaux sociaux, ça fait mal.
Désormais, les musulmans comme Yatchar attendent du gouvernement une réponse ferme et ciblée.
L'État doit contrôler davantage ces groupes islamistes radicalisés. C'est même un peu tard, il aurait fallu commencer il y a 20 ans. La République doit lutter contre cela, mais pas en mettant tout le monde dans le même sac, car sinon elle s'en prend aussi à nous, à mes enfants.
Le chancelier Sébastien Kurz a promis de lutter contre l'islam politique et estime que l'Union européenne doit à l'avenir beaucoup plus se concentrer sur ce problème. Vianney Zorias, France Inter.
En France, la cacophonie, le cafouillage, c'est fini. Les députés ont rétabli ce soir, au 16 février, l'échéance de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire après le couac de mardi soir où l'opposition avait réussi à faire voter contre le gouvernement une prolongation au 14 décembre seulement. Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis, dénonce à la tribune ce soir une dérive autoritaire du gouvernement.
Je trouve que tout ça est conforme à ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire le sourire aux lèvres et aux applaudissements généraux un régime autoritaire de type particulier. Nous sommes, un régime autoritaire. Vous êtes en train de suspendre des libertés fondamentales. Le sourire aux lèvres, et quand l'Assemblée, par hasard, parvient à amender, ce ne sont pas les nôtres d'amendements, ce sont ceux de l'opposition de droite, parvient à amender, alors ça vous scandalise et on revote. Donc l'Assemblée ne sert à rien pour vous, jamais. Nous sommes sous la direction du Conseil de défense qui outrepasse les droits que la Constitution et le Code de la défense lui donnent, décide de tout, et nous sommes convoqués ici pour enregistrer vos décisions sous vos acclamations.
Jean-Luc Mélenchon, propos recueillis par Élodie Forêt. La progression de l'épidémie de coronavirus, un conseil de défense sanitaire autour d'Emmanuel Macron a eu lieu ce matin. Le chef de l'État a rappelé la gravité de la situation en soulignant qu'un malade du coronavirus est hospitalisé en France toutes les 30 secondes. Et après les polémiques sur l'ouverture des commerces non essentiels, les produits vendus en grande surface, le protocole sanitaire pas assez strict, selon les médecins, un protocole insuffisant pour les lycéens qui ont bloqué leur lycée, et bien ce soir, le gouvernement doit faire face à une nouvelle grogne dans les écoles primaires cette fois. En cause, le port du masque à 6 ans, mesure très contestée. Avignon, Isabelle Godin, France
Le masque obligatoire à l'école dès 6 ans, c'est la goutte d'eau pour Nazia, une maman d'Avignon. Sa fille est en CP et depuis lundi, elle est angoissée à l'idée d'aller en classe.
Très stressée, anxieuse, elle m'a posé plein de questions. Moi, ma fille, elle a 6 ans, elle se sent pas bien. Je veux dire, ils sont là pour apprendre, ils sont là pour s'exprimer. Avec le masque, c'est vrai que ça pose des problèmes.
À Roussillon, en Provence, des parents se mobilisent. Leurs enfants iront sans masque à l'école ce jeudi matin en signe de protestation. C'est trop de souffrance pour Jennifer, maman de 2 garçons de 8 et 10 ans.
Moi, mon grand me dit qu'il a passé un petit moment à la récréation, la tête entre les jambes, caché dans un coin de la cour, pouvoir enlever son masque et respirer 2 minutes. C'est pas du tout ce qu'on veut pour nos enfants. Ils sentent quand même la pression. Enfin, moi, j'ai pas porté de masque une seule fois 8 heures d'affilée. Ne serait-ce que les répercussions psychologiques sont déjà suffisantes pour justifier l'action, quoi.
Dans cette famille avignonnaise, aller à l'école masquée, c'est de la maltraitance. Le fils de Siam, 6 ans, ne va donc plus en classe depuis lundi.
Il a des lunettes toute la journée à l'école avec un masque, non quoi. S'il a des exercices à prendre sur le tableau, il peut pas les voir parce qu'il a de la buée sur les lunettes. C'est insupportable pour un adulte, alors encore moins pour un enfant.
Et tant que le port du masque sera obligatoire à l'école primaire, cette maman avignonnaise prévient.
Même si ça dure des mois et des mois, hein, mon fils il restera à la maison.
Isabelle Godin de France Bleu, Vaucluse. L'ouverture des commerces de proximité fait toujours débat. Plusieurs maires qui avaient pris des arrêtés pour permettre l'ouverture de ces petits commerces comme à Béziers ou Perpignan ont vu leur arrêté suspendu aujourd'hui par la justice. Situation parfois encore un peu confuse dans les grandes surfaces également qui doivent depuis aujourd'hui fermer plusieurs rayons, livres, disques, jouets, habillements. Dans certains supermarchés, les clients s'y perdent. Reportage à Paris-Montparnasse, Manuel Ruffez.
étrange impression en pénétrant dans ce magasin Monoprix du quartier Montparnasse, où on se heurte très vite à un barriérage.
Donc effectivement, là, on voit que tout est fermé. Les vêtements, là, essentiellement, papeterie, journaux, là, des objets pour la maison, tout ça est condamné avec du ruban et des panneaux sans interdit.
Marie, une habitante du quartier, s'est faite surprendre alors qu'elle cherchait...
Du scotch, papeterie, hein, pas d'alcool.
Et alors ?
Ben c'est là-bas, mais c'est fermé.
C'est au bout du rayon, là ?
Oui, dans le rayon qui est fermé.
Globalement, d'ailleurs, pour les clients, la situation est incompréhensible. Il faut dire aussi que l'enseigne a préféré, pour l'instant et pour éviter toute erreur, fermer plus de rayons.
C'est-à-dire que je ne peux plus acheter une paire de collants, je ne peux plus acheter une paire de chaussettes, je ne peux pas acheter un soutien-gorge. Moi, je regrette, mais des magasins de chaussettes et collants à Paris, il n'y en a plus beaucoup, hein, je vais vous dire, et surtout pas dans le quartier. Je trouve que moi, c'est essentiel, pour moi, femme.
Et il y a même de la colère face à cette décision du gouvernement de fermer les petits commerces, puis les rayons des grands magasins.
Mois par mois ne donne pas plus. Deux mauvaises décisions donnent une très mauvaise décision, et c'est complètement ridicule.
Des panneaux signalent quand même qu'en commandant par Internet sur le site de l'enseigne, vous pouvez acheter et retirer tout ce que vous voulez.
Manuel Ruffez à Montparnasse à Paris. Le Conseil des ministres a adopté ce matin une ordonnance qui va permettre de geler les avoirs criminels et empêcher les personnes soupçonnées de terrorisme d'avoir accès à des ressources et des services financiers. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Alors cette mesure renforce et élargit l'obligation de lutte contre le financement du terrorisme, notamment aux banques en ligne, mais aussi aux proches de personnes soupçonnées de terrorisme.
Oui, en France, ce sont 2350 personnes et entités qui sont concernées actuellement, dont 100 pour des soupçons de lien avec des affaires de terrorisme. 5 associations sont dans le viseur. Le gel des avoirs dure 6 mois, mais il est renouvelable à l'infini. Au niveau mondial, on pense à ces dictateurs, ces marchands d'armes dont les avoirs en Suisse ou ailleurs sont gelés depuis parfois plusieurs décennies, du moins quand le Conseil de sécurité de l'ONU décide de taper au portefeuille. Avec cette ordonnance adoptée ce matin à Paris en Conseil des ministres, le gouvernement donne la possibilité à sa police administrative de Bercy, en lien avec les services de renseignement du ministère de l'Intérieur, eh bien, de renforcer singulièrement sa force de frappe à plusieurs niveaux. D'abord en appliquant désormais instantanément les décisions de l'ONU de gel d'avoir, histoire d'éviter des retraits au guichet des banques ou des ventes de biens immobiliers. Et puis, vous l'avez dit, les néobanques, les banques en ligne sans guichet installées souvent chez nos voisins européens, elles devront enfin rendre des comptes, prouver qu'elles sont capables de détecter des fonds suspects et les signaler. Et là, on pense aux avoirs en crypto-monnaie si difficiles à tracer dans des mondes financiers parallèles. Ça va donc devenir un peu plus compliqué de passer sous les radars et les cyberbanquiers, comme les notaires, comme les dirigeants de casinos jusque-là, vont risquer très gros s'ils ferment les yeux sur certaines transactions plus que douteuses.
Emmanuel Leclerc, merci.
Allez, on termine, Frédéric, ce journal avec une offre littéraire bien mince en raison du confinement et de la fermeture des librairies.
Faut-il maintenir ou reporter la sortie des livres à gros tirage prévus en novembre ? Une BD signée Laila Slimani, un nouveau Black et Mortimer, le dernier roman de J.K. Rowling ou, et c'est l'actualité, les mémoires de l'ancien président américain Barack Obama. À chaque éditeur, sa stratégie, Ilana Mar-Youssef.
Les mémoires d'Obama paraîtront bien à la date prévue, le 17 novembre. Sophie de Closet, la directrice des éditions Fayard, fait le pari que d'ici là, les librairies auront rouvert. De toute façon, elle ne se voyait pas faire autrement.
Ça sort aux États-Unis ce jour-là, donc après c'est l'intérêt de la plupart des éditeurs, à partir du moment où ça sort aux États-Unis dans un monde connecté, de sortir tous en même temps. La semaine où on va en parler, parce qu'il va y avoir des reprises de médias américains, parce qu'on est dans une séquence, on parle beaucoup des États-Unis, parce qu'on les attend ces mémoires depuis longtemps, parce que Barack Obama, etc., etc. Imaginez que le livre, il est prêt, que les gens ne peuvent pas l'acheter, ça me paraît aussi complètement dingo.
Si les librairies restent fermées, dit Sophie de Closet, le livre d'Obama sera un très bon produit d'appel pour le click and collect. Le 5e volume de l'Arabe du futur et la BD signée Leïla Slimani sont maintenus également. Pour J.K. Rowling, en revanche, Edwige Pasquet, présidente des éditions Gallimard Jeunesse, a fait un autre choix.
Ce sont les libraires qui ont fait découvrir J.K. Rowling dès la publication de son premier volume d'Harry Potter. Et cela serait vraiment dommage aujourd'hui qui ne participe pas au lancement d'Ikabog, qui est son premier roman pour la jeunesse depuis Harry Potter, donc depuis 13 ans.
Chez Dargo, on attend aussi d'en savoir plus avant de fixer la date de sortie du nouveau Black & Mortimer, initialement prévu le 20 novembre.
Et la sortie de l'Arabe du futur 5 de Riyad Satouf est prévue demain. Merci Ilana Mar-Youssef.
Merci, c'est tout, Fabienne. Frédéric Barrère. À demain, Frédéric. On reste ensemble, nous, bien sûr, pour le téléphone sonne avec vos questions sur ce que l'on sait, sur ce qu'il reste devant nous après cette nuit américaine et ces élections qui, pour l'instant, n'en finissent pas. Ça se passe, bien sûr, au 01 45 24 7000. L'œil sur le ciel.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et Sébastien Léas, au programme de demain, une journée ensoleillée.
Oui, le soleil finira par s'imposer quasiment partout demain après-midi, mais au lever du jour, l'ambiance sera parfois assez grise à cause des brouillards et des nuages bas. Alors ces grisailles ne seront pas généralisées, quelques régions seront même épargnées, profitant d'un ciel dégagé dès le lever du jour. Mais localement, notamment au nord de la Seine, ces nuages bas pourront être récalcitrants et rester l'après-midi. Alors ces plaques de rebelles seront quand même peu nombreuses, hormis sur le centre-est, entre le Jura, le Dauphiné, le Lyonnais et l'est de l'Auvergne, où la journée s'annonce nuageuse. Et puis le ciel restera aussi chargé autour du golfe du Lion, notamment vers la vallée de l'Aude et les Pyrénées-Orientales à cause d'entrées maritimes.
Et Sébastien, les températures en hausse dans l'après-midi, mais attention, ça reste que frisqué le matin.
Oui, on va même parler de froid, hein, puisque comme ce matin, on attend encore des gelées en fin de nuit et demain matin, notamment du côté d'Évreux, de Fontainebleau ou encore de Château-Thierry. En revanche, l'ambiance sera plutôt douce demain après-midi sur les régions du sud, avec des maximales comprises entre 12 et 21 degrés, jusqu'à 23 degrés en Provence. Les températures de la moitié nord seront quand même moins élevées, avec 8 à 14 degrés demain après-midi.
Sébastien Léas de Météo France. Merci beaucoup, Sébastien.